La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Comme vous le voyez affiché sur l'écran, nous allons ce matin considérer le message du troisième ange. Et voyez-vous, afin de pouvoir arriver au message du troisième ange, il nous faut d'abord accepter celui du deuxième ange. Et afin d'arriver à accepter le message du deuxième ange, il nous faut d'abord accepter le message du premier ange. Et pourquoi cela, mes amis? Pourquoi cela? Remarquez que dans Apocalypse chapitre 14, vous le connaissez, mais remarquez que nous avons là les trois anges et ils se suivent. Le premier ange vole dans le ciel, le deuxième ange le suit et le troisième ange suit le second et le premier. Nous avons en Apocalypse 14, ce que nous pourrons appeler une parade. OK? Un défilé. Et pensez-vous que les anges d'Apocalypse 14 donnent un message différent? Non. La Bible dit qu'ils se suivent, mes amis. La Bible dit qu'ils se suivent. Et quand j'ai considéré ce message de manière attentive, très attentivement, j'ai vu là un modèle pour les camp-meetings, un modèle pour œuvrer dans la cause de Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il envoie des messagers, il n'envoie pas qu'un seul, il envoie des messagers, il les envoie l'un après l'autre, et en fait, les messagers de Dieu donnent le même message, en fait. Ils donnent le même message. Le troisième ne va pas contredire ce que le deuxième a dit, ni le deuxième ce que le premier a dit. Et voyez-vous, cela, lorsque nous comprenons que ces anges sont des symboles de prédicateurs, de pasteurs, nous comprenons que nous devons donner le même message. Nous comprenons que dans l'Église de Dieu, lorsqu'on organise un camp meeting, les orateurs doivent donner le même message. Voilà l'ordre de Dieu, en fait. Et ça, c'est deux points que je souhaitais partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet en ce matin. Et je souhaiterais maintenant clarifier un point. Il nous faut avoir cette chose de manière claire à l'esprit. Remarquez le verset 12 de Apocalypse 14, où il nous est dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, nous devons être clairs. Ce verset fait partie du message du troisième ange. Ce verset fait partie du message du troisième ange. Et pourquoi? Parce que les paroles contenues dans ce verset, remarquez, les paroles qui sont contenues dans ce verset ne sont pas introduites par la voix du ciel que Jean a entendue au verset 13. Au verset 13, qu'est-ce que nous lisons? Et j'entendis une voix du ciel qui me disait. Donc, au verset 13, une autre voix introduit ou passe à un autre, je dirais, message ou passe ou vient conclure le message du troisième ange. L'Apocalypse nous dit que, au verset 9, et un troisième ange le suivit en disant. Donc, tant que nous n'avons pas un autre en disant, tout ce qui est situé après fait partie du message du troisième ange. Est-ce que vous suivez cela? C'est important, mes amis. C'est très important. Parce que, récemment, vous savez quoi? J'ai entendu qu'il y a des ministères en France qui enseignent que le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange. Depuis quand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mes amis, il nous faut être au clair. La voix qui parle au verset 13, elle introduit, elle vient conclure le message du troisième ange. Ok? Donc, tant que vous n'avez pas une autre voix qui... tant que la Bible ne vous dit pas que « et j'entends une autre voix disant », c'est que c'est toujours le message du troisième ange. Et mes amis, c'est grave. Si nous ne sommes pas au clair là-dessus, c'est très grave. Parce que nous enlevons, lorsque nous adhérons à cette nouvelle théorie qui est en train de courir les rues, à savoir que le verset 12 ne fait pas partie du message du troisième ange, qu'est-ce que nous sommes en train de faire lorsque nous faisons ça? Nous sommes en train, en faisant ça, d'enlever la caractéristique de l'église du reste. Et en fait, on est en train de dire que dans le message du troisième ange, il n'est pas question des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. En clair, mes amis, voilà comment on vit de la vérité présente de son contenu. Il nous faut être clair là-dessus, mes amis. Voyez-vous, dans la première partie de notre étude, nous avons considéré la plus longue période prophétique. Laquelle est? Les 2300 soirs et matins. 2300 années, littéral. Et laquelle nous trouvons dans la Bible, la plus longue période prophétique que nous trouvons dans la Bible. Et nous avons établi que la proclamation du message du troisième ange doit commencer le 22 octobre 1844. Et voyez-vous, le message du quatrième ange, il répète et amplifie le message du deuxième ange. Et il vient, quant à lui, après le troisième ange. Cependant, après la proclamation du message du troisième ange, nous voyons la venue de Jésus pour moissonner dans Apocalypse chapitre 14, versets 14 et 15. Ce qui, d'après les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 13, verset 39, est la fin du monde. Est-ce que vous avez saisi ça, mes amis? Avons-nous saisi cela, mes amis? Le fait que Jésus vient juste après la proclamation du message du troisième ange, cela montre que juste après cette proclamation, c'est la fin du monde, mes amis. Par conséquent, le message du troisième ange, ou le message des trois anges, si nous les considérons comme une unité, eh bien ce message-là, mes amis, est pour ce monde le dernier message de miséricorde, auquel le message du quatrième ange unit sa voix et donne sa puissance. C'est le dernier message de miséricorde, mes amis. Nous vivons dans la dispensation du lieu très saint du sanctuaire, mes amis. Il n'y a pas une quatrième dispensation après. Et nous vivons dans cette époque-là, mes amis. Et voilà pourquoi le thème du camp meeting est le dernier message de miséricorde. C'est parce que juste après la proclamation de ce message, mes amis, c'est le retour de Jésus. Et vous comprenez? Le temps de probation se termine. Le premier ange demande la véritable adoration, tandis que le troisième ange présente la véritable adoration en contraste avec la fausse adoration. Et voyez-vous, d'après le troisième ange, la véritable adoration est basée sur les commandement de Dieu et la foi de Jésus. C'est cela, mes amis. Tandis que la fausse adoration, quant à elle, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur ce que produit la bête, ou même sur la bête et sur son image. Ok. Voyez-vous, je souhaite que vous gardiez cela à l'esprit tout au long de notre étude de ce message. Car si nous ne sommes pas capables d'identifier la bête, nous sommes alors en danger de recevoir sa marque. La bête qui est mentionnée par le troisième ange est celle que Jean vit tel qu'il le rapporta dans les 10 premiers versets du chapitre 13 d'Apocalypse. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 13. Et nous lirons les 10 premiers versets. Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10. Et suivons la lecture. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu et pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ok. Et tous ceux qui habitent sur la terre, je continue. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Avec l'étude prophétique que nous avons réalisée afin d'identifier la mère des prostituées hier matin, nous pouvons clairement voir que cette bête dont il nous est parlé dans les 10 premiers versets d'Apocalypse 13 présente les mêmes caractéristiques que les bêtes de Daniel 7 ainsi que celle de la petite corne du livre de Daniel. En effet, cette bête monte de la terre comme toutes les quatre bêtes de Daniel que nous lisons au chapitre 7 et au verset 2 et 3. Deuxièmement, son corps de léopard, ses pieds d'ours et sa gueule de lion montrent qu'elle est une combinaison des trois premières bêtes de Daniel 7. Troisièmement, comme la petite corne, son trône ou sa demeure est celui d'un autre, tout comme nous pouvons le voir dans Daniel 8, 11. Quatrièmement, comme la petite corne, elle a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Cinquièmement, comme la petite corne, elle fit la guerre aux saints, d'après ce que nous lisons en Daniel 7, verset 25. Et ça durant combien de temps, en Daniel? Durant, eh bien tout comme dans Apocalypse, mes amis, durant 42 mois. En Apocalypse 13, nous lisons ça, Apocalypse 13, verset 5. Ce qui est un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou les 1260 années accordées à la petite corne, d'après Daniel 7, verset 25. Et septièmement et dernièrement, après son règne de 1260 années, le jugement investigatif doit avoir lieu, d'après Daniel 7, verset 9 et 10. Et je vous invite à comparer cela avec Daniel 13, verset 8. Est-ce si difficile de conclure, avec toutes ces évidences, est-il si difficile de conclure que cette bête est la Rome papale qui reçut la blessure mortelle lorsque le général Berthier emmena le pape Pie VI en captivité en 1798? Non, mes amis, ce n'est pas difficile d'arriver à cette conclusion. Cependant, certaines personnes aujourd'hui et des personnes qui ont une bonne compréhension de la divinité et qui se réclament, qui se revendiquent être des chrétiens basés sur la Bible Eh bien, ils arrivent à une conclusion différente de celle-ci. En effet, tandis qu'ils reconnaissent que la mère des prostituées est l'Église catholique romaine, que la petite corne de Daniel 7 est la Rome papale, et que la Rome papale est l'une des têtes de la bête d'Apocalypse 13, ces personnes-là enseignent que cette bête, la bête des 10 premiers versets de Apocalypse 13, n'est qu'en fait l'Union européenne. Et je reprends. Ces personnes-là, elles reconnaissent que la mère des prostituées est l'Église catholique romaine. Elles reconnaissent aussi que la petite corne de Daniel 7 est la Rome papale et que la Rome papale est l'une des têtes de la bête d'Apocalypse 13. D'accord? Et bien qu'elles reconnaissent cela, elles arrivent à enseigner que cette bête, la bête que l'on voit dans les 10 premiers versets d'Apocalypse 13, est l'Union européenne. Et alors, comment font-ils pour arriver à cette conclusion? Alors, je vais vous exposer quelques-uns de leurs arguments avant de pouvoir les démonter l'un après l'autre. Ok? Alors, leur premier argument, et écoutez bien, je vais les répéter avant de les démonter à chaque fois. Là, je vous les lis tous. Et avant de les démonter pièce par pièce, je vais vous les répéter aussi. Écoutez bien. Ils disent que une corne représente toujours un royaume et qu'une bête représente toujours un empire. La première chose. La deuxième chose est qu'ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête car, petit a, la mère des prostituées, donc l'Église catholique romaine, monte la bête. Et petit b, la bête attaquera ensuite la prostituée. Et troisièmement, ils disent que le dragon d'Apocalypse 13 ne peut pas représenter l'Empire romain, mais il ne peut que représenter Satan. Voilà les trois majeurs, les trois arguments principaux qu'ils utilisent. Mais voyez-vous, je me dois ici d'être vraiment audacieux. Je me dois ici d'être vraiment osé, mes amis, et de vous dire que cela, contrairement à ce qu'ils revendiquent, cela n'est pas du tout une interprétation basée sur la Bible. Alors, nous allons commencer à démonter cela, mes amis, avec la Bible. Nous allons démonter le premier argument qui est que, d'après eux, une corne représente toujours un royaume et qu'une bête représente toujours un empire. Voilà leur argument que nous allons démonter. Je vous l'annonce, notez-le. Une corne, d'après eux, représente toujours un royaume et qu'une bête représente toujours un empire. Ok. Voilà. Donc, nous allons démonter cela à présent. On commence. Lorsque, en expliquant la vision donnée à Daniel au chapitre 8, je vous invite à vous rendre avec moi en Daniel chapitre 8 et au verset 21. Car là, l'ange Gabriel déclare quelque chose de très significatif pour nous, afin de comprendre cela. Daniel chapitre 8, verset 21. Daniel chapitre 8, verset 21, mes amis. Daniel chapitre 8, verset 21. Et là, l'ange Gabriel déclare ce qui suit. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, autrement dit la Grèce. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Qu'est-ce que l'ange dit là? Est-ce qu'on peut se poser et juste répéter ce que l'ange dit? Le bouc, donc la bête, c'est quoi? C'est un roi, ok? Donc le roi de la Grèce, de Javan de la Grèce, ok? Et que la grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi, ok? Combien de symboles avons-nous ici, dans ce verset? Nous avons deux symboles. Nous avons une bête et une corne, ok? Et ces deux symboles-là représentent quoi? D'après les propos de Gabriel, ils représentent tous deux un roi. Ok. Et qui dit roi, mes amis, dit royaume. Il est clair, mes amis, qu'un roi est le chef d'un royaume et qu'un empereur est le chef d'un empire. Mais l'argument selon lequel une corne doit toujours représenter un royaume et qu'une bête doit toujours représenter un empire, nous le voyons être en contradiction totale avec l'enseignement donné par l'ange, mes amis. Cela est en contradiction totale, mes amis. Et cela va même plus loin. Parce que lorsque nous considérons que la bête est, comme dit l'ange, que la bête c'est le roi de Javan, et que la corne est le premier des rois, et nous savons que cette première corne c'est Alexandre, cela veut dire que du temps d'Alexandre, Alexandre, la personne d'Alexandre, était représentée, alors étant donné que Alexandre était à la tête du royaume de la Grèce, Alexandre était représenté et par la bête et par la corne, mes amis. Donc, la règle, leur première règle d'interprétation, leur première nouvelle règle d'interprétation, voilà comment en un verset, juste en acceptant les paroles de l'ange, nous démontons cela, mes amis. Nous allons passer maintenant au démontage du deuxième argument et de la partie A de ce deuxième argument qu'ils ont. Alors, leur argument est que la Rome papale ne peut pas être la bête. Je répète, ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête car, et nous allons démontrer le petit a, car, petit a, la mère des prostituées, c'est-à-dire l'église catholique romaine, eh bien, elle monte la bête. Ok? Pour eux, parce que pour eux, en fait, si la bête représente la Rome papale, et que la prostituée représente l'église catholique romaine, Dieu ne peut pas, avec deux symboles différents, représenter une même chose. Alors, nous allons commencer comme suit. Et je vais commencer en vous posant une question. Qui est Jésus? Alors, je suis sûr que vous allez me donner beaucoup de réponses et que toutes vos réponses seront justes. Ok. Mais je vous pose la question, qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Alors, il est le roi, the king, ok. Mais maintenant, alors, je vais préciser, sinon, oui. Maintenant, qui est Jésus par rapport à l'Église? Jésus est le chef de l'Église. Amen? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Oui, parce que c'est marqué, ok, dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, et dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Christ est le chef et son Église est son corps. Voilà ce qu'il faut retenir à présent, mes amis. Éphésiens 5, 23 et, Colossiens 1, 18 nous dit que Christ est le chef et que l'Église est son corps. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est une déclaration biblique, mes amis. C'est un enseignement biblique. Cependant, face à cet enseignement, certains croyants ont décidé, il y a longtemps de cela, eh bien, de conférer cette position à un homme qui est le souverain pontife, le pape. Et lorsque ces croyants ont donné cette position de chef d'église à un homme charnel, autre que le Fils de Dieu, eh bien, à ce moment-là, cette église qui a fait cela, était-elle le corps du Christ? Non! Ils ont coupé la tête qui est Christ. Et ils ont mis une autre tête. Et à ce moment-là, ce corps, cette église, elle est devenue quoi? Une église vivante? Non, un corps mort, mes amis. Un corps mort. Une église déchue. Ainsi, bien qu'étant sa tête, le pape ou la papauté n'est pas le corps de cette église, qui est l'église catholique romaine, de cette église déchue que la Bible qualifie de mère des prostituées. Vous avez compris cela? Je reprends. Ainsi, bien qu'étant sa tête, le pape ou la papauté n'est pas le corps de cette église déchue que la Bible qualifie de mère des prostituées. Le pape est la tête. Et les membres, vous avez les membres qui sont derrière, le reste de la structure, mes amis, représente le corps. Tout comme dans l'église du Christ. En fait, c'est une contrefaçon. Il y a un corps et une tête. Mais ils ont fait une contrefaçon avec un corps, mais le corps a changé de tête. Ils ont coupé la tête, ils ont évincé Christ et ils ont mis un charnel à la place, mes amis. Voilà, mes amis. Et voilà une nuance. Ce que je viens de dire à l'instant, c'est une nuance. Pourquoi? Parce que là, nous avons considéré la papauté et le corps, les croyants, comme deux entités séparées. Mais même si nous les considérons comme une seule entité, comme une même unité, rappelez-vous qu'une même chose peut être représentée par deux symboles différents. Comme nous l'avons vu dans notre première explication, à un moment, Alexandre était bien représenté par la bête et par la corne. Donc, si nous voulons avoir cet angle de vue-là concernant la bête, qu'est-ce qui pose un problème que dans Daniel, Dieu représente une même personne, le même chef d'une nation par deux symboles différents, et qu'il le refait en Apocalypse, qui représente la même entité par deux symboles différents. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas le droit de le faire, mes amis? Donc voilà ce qui vient invalider le petit A du deuxième argument qu'ils ont. Et maintenant, nous allons considérer le petit B. Ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête car, petit B, je reprends, ils disent que la Rome papale ne peut pas être la bête car, petit B, la bête attaquera ensuite la prostituée. Ils disent que la bête attaquera ensuite la prostituée et que par conséquent, cela fait que la Rome papale ne peut pas être la bête. Que pensez-vous qu'il nous faut faire de manière à savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Que nous faut-il faire? Oui, ouvrons nos Bibles. Et où est-ce? Là où on nous parle de l'attaque de la prostituée. Apocalypse 17, verset 16. Oui. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible, qui trouvent une interprétation différente. Eh bien, ouvrons nos Bibles et voyons voir ce que la Bible dit. Et si nous sommes guidés par le même esprit, nous allons tomber sous la même interprétation. Apocalypse 17, verset 16. Et là, nous lisons que « Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. » Rappelez-vous qu'ils disent que, ils disent quoi ces gens? Que la bête attaquera ensuite la prostituée. C'est ce qu'ils disent. Hein? Que dit le verset 16, mes amis? Qui est-ce qui attaque la prostituée? La bête? La bête? Mes amis, je vous pose la question. Qui attaque la prostituée? Ah! Pardon, répétez-moi cela. Les 10 cornes, mes amis. Ce sont les 10 cornes qui attaquent la prostituée, mes amis. Oui! Ce sont les 10 cornes qui attaqueront la prostituée et non pas la bête. Ce sont les 10 cornes, le texte dit bien, et les 10 cornes que tu as vues à la bête. Donc, à la bête, sous la bête. Ok? Eh bien, haïront la prostituée et la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Donc, ce sont les 10 cornes qui attaqueront la prostituée et non la bête, mes amis. Et, je vais plus loin, et non pas la bête par les 10 cornes. Ce n'est ni la bête par les 10 cornes. Pourquoi j'ai dit cela? Car voyez-vous, au verset, le verset 17 que nous avons, eh bien, il est souvent employé pour dire que les 10 cornes donnent leur royaume à la bête après. Je reprends cela. Ce verset-là est souvent employé pour dire que les 10 cornes donnent leur royaume à la bête après qu'ils aient attaqué la prostituée. Mais, voyez-vous, cette interprétation est erronée pour au moins deux raisons. La première est que, au verset 18, l'ange parle de la prostituée qui fut tuée au verset 16. Vous comprenez? Vous avez le verset 16. Au verset 16, on nous dit que la prostituée est tuée. Et au verset 18, on nous reparle d'elle, mes amis. Ce qui n'est pas cohérent. Si les versets 16, 17 et 18 sont dans l'ordre chronologique, ça a du sens, ça. Non, ce ne serait pas cohérent s'ils étaient dans l'ordre chronologique. Et le deuxième point est que ces 10 cornes sont issues de quoi? De quoi? Est-ce que vous croyez que le livre de l'Apocalypse a été donné pour continuer et aller plus loin dans la révélation? Oui, Daniel et l'Apocalypse sont deux livres qui sont connectés. Donc, lorsque Dieu vous présente 10 pouvoirs qui sont sur une bête, qui elle-même est en rapport avec des bêtes qu'on a vues dans Daniel, ces 10 cornes sont issues de quoi, mes amis? Ces 10 cornes sont issues de la division de l'Empire romain représentée en Daniel 2 et 7. Et de manière intéressante, nous savons que ces 10 rois, que ces 10 royaumes aussi, permirent à la papauté de commencer son règne de 1260 années en 538 après Jésus-Christ. Ce qui nous montre, mes amis, que la captivité du pape en 1798 fut l'enlèvement de la domination mentionnée en Daniel chapitre 7 verset 26, ce qui est un accomplissement partiel du verset 17 du chapitre 17 de l'Apocalypse. Donc voilà, mes amis. Et le troisième point, et donc que nous allons démonter leur argument sur ce troisième point, leur troisième argument est que le dragon d'Apocalypse 13 ne peut pas représenter l'Empire romain, mais uniquement Satan. Alors ils disent, je répète, ils disent non, le dragon d'Apocalypse 13 ne représente pas l'Empire romain, mais uniquement Satan. En Apocalypse chapitre 12 verset 9, il est clair, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12 verset 9, et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et qui? Satan. Donc, il est clair que le dragon est un symbole de Satan, n'est-ce pas? La Bible le dit. Et cela est acceptable, cela est vrai. Mais, mes amis, si nous appliquons uniquement et exclusivement le symbole du dragon à Satan, alors permettez-moi de vous dire que nous devrions comprendre que la femme d'Apocalypse 12 n'est pas l'église du Christ, mais Marie. Nous devrions comprendre cela si nous avons ce genre d'interprétation-là, exclusive. Mais mes amis, voyez-vous, la Bible ne nous dit pas qu'avant la naissance de Jésus, Marie fut sous la lune et a pris le soleil comme un vêtement. Et je ne pense pas non plus que la Vierge Marie, comme ils le disent, eh bien, vécut jusqu'en 538 après Jésus-Christ, et qu'elle vécut 1260 années jusqu'en 1798, mes amis. Mais voyez-vous que le dragon de l'Apocalypse est également un symbole de la puissance présentée en Daniel, c'est-à-dire la première phase de la petite corne, autrement dit la Rome païenne. Eh bien, cela est évident. Il est évident qu'il s'agit de la puissance, de cette puissance. Et ce, parce que dans ces deux livres, dans l'Apocalypse et dans Daniel, vous avez cette puissance qui fait quoi? Elle jette, rappelez-vous, elle jette les étoiles par terre, comme on l'a lu dans Daniel 8. Et là, nous l'avons en Apocalypse 12, verset 4. Remarquez cela. Apocalypse 12, verset 4. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel et elle les jetait sous la terre. Ok? Et mes amis, vous retrouvez la même chose dans Daniel chapitre 8 verset 10. Et en Daniel chapitre 8 verset 10, nous avons vu de quelle puissance il s'agit. Et le deuxième point est que cette puissance existait avant la Rome papale. En effet, en Apocalypse chapitre 13 verset 3, On nous dit quoi? Apocalypse 13, verset 3. Attendez. Je vis une cépette comme des chiens. Oh, en fait, on va lire le verset 2, en fait. Le verset 2, dans les Bibles françaises. Le verset 2 qui est celui comme suit. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Donc, on voit que c'est une puissance qui se trouve avant la puissance qui est présentée, la bête qui est présentée. Et de la même chose, nous voyons qu'elle donne son trône et son sa demeure en Apocalypse, en Daniel 8, verset 11. Mais voyez-vous, pour bien démonter cette théorie, cette nouvelle théorie, il nous faut avoir une compréhension correcte des têtes et des cornes de la bête. Car si nous avons une mauvaise compréhension des têtes et des cornes de la bête, eh bien, cela facilite, cela nous aide à écarter la papauté. Voilà ce qui fait que les gens arrivent à écarter la papauté. C'est parce que ils ont une mauvaise compréhension des têtes et des cornes de la bête. Lorsque nous lisons en Daniel, en Apocalypse, chapitre 17, versets 9 à 12, Apocalypse, chapitre 17, versets 9 à 12, là, nous lisons que, Apocalypse 17, versets 9 à 12, nous lisons que, c'est ici l'intelligence qui possède la sagesse. Les sept têtes sont quoi? Sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer qu'un temps. Et la bête qui était et qui n'est plus et est elle-même un huitième roi, elle vient des sept et s'en va en perdition. Verset 12 et dernier. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu l'empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pendant, pour une heure. D'après la description de l'ange, les sept têtes ou sept rois ne sont pas contemporains. Ils ne sont pas contemporains, mes amis. Les sept têtes, je reprends, vous suivez cela, mes amis? Les sept têtes, d'après la description que donne l'ange, ils ne sont pas contemporains, ils ne vivent pas au même moment. Contemporaneous. They are not contemporaneous, the seven head. Les sept têtes ne sont pas contemporains, mes amis. Les sept rois. Les sept têtes sont sept rois, d'après la description de l'ange, et ils ne sont pas contemporains. Ça veut dire que, il y en a un qui vit, après il y en a un autre qui vit, et après un autre. Ce qui n'est pas le cas avec les dix cornes, mes amis. Ce n'est pas le cas avec les dix cornes. Les dix cornes, eux, sont contemporains. Et pourquoi? Pourquoi? Car chacune de ces cornes reçoit la puissance comme roi une heure avec la bête. C'est-à-dire un instant ou une saison. Vous comprenez? Est-ce qu'à présent vous comprenez comment le symbolisme prophétique fonctionne pour les cornes et pour les têtes? Les têtes ne sont pas contemporaines, mais les cornes le sont. Les dix rois vivent au même moment. Tandis que les têtes, ce n'est pas le cas, mes amis. Et voyez-vous, nous savons que ces dix rois sont les dix qui sont décrits en Daniel, chapitre 2, Daniel 2 et 7. C'est-à-dire le royaume qui succéda à l'Empire romain. Ce qui est, en d'autres termes, qui est cet empire-là qui a succédé, ce royaume qui est venu après? Les barbares, oui, mais en termes plus modernes. C'est l'Europe, mes amis. Alors, rappelez-vous qu'ils disent que la bête, c'est l'Europe. Mais si les dix cornes sont l'Europe, et que la bête est l'Europe, comment l'Europe peut-elle recevoir puissance une heure avec l'Europe? Comment l'Europe donnerait sa puissance et sa force à l'Europe? Comme vous le voyez, mes amis, cela n'a pas de sens. Et notamment parce que l'Europe, premièrement, l'Europe n'est pas la tête qui fut blessée par une captivité suite à 1260 années de règne durant lesquelles elle aurait fait la guerre au sein comme le fit la papauté. Et deuxièmement, parce que les prophéties du livre de Daniel, et tout particulièrement Daniel 7 et 8, ne présentent pas l'Europe, mes amis, comme étant la puissance finale de la controverse, comme elles le font pour la papauté. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Bibliquement parlant, la réponse que nous pouvons apporter aux personnes qui se revendiquent être des chrétiens basés sur la Bible. Et maintenant, nous allons considérer rapidement l'image de la bête. Ok. Ok. L'image de la bête est faite par les habitants de la terre sous le commandement d'une autre bête qui est décrite en Apocalypse chapitre 13, verset 11. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 13, verset 11. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Apocalypse, chapitre 13, verset 11, où il nous est dit, « Puis je vis une autre bête montée de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. » Lorsque Jean la vit, cette bête a deux cornes. Eh bien, elle monte. Lorsqu'il était en train de la considérer, eh bien, cette bête était en train de monter de la terre. C'est-à-dire, d'un territoire nouveau et précédemment inoccupé. D'après, Apocalypse, chapitre 17, verset 15, où nous disons que les eaux, qui sont un symbole opposé à la terre, eh bien, signifient une région habitée. Ce qui implique que la montée de cette bête, son élévation, son apparition, fut caractérisée par le pacifisme. Sa montée a été pacifique. Ok. Deuxièmement, elle surgit au même endroit où la tête de la première bête fut blessée. Au même moment. Elle a surgi au même moment où la tête de la première bête fut blessée. C'est-à-dire, en 1798, si nous mettons une date dessus. Et troisièmement, elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau, et je précise, non couronnée. Il n'y a pas de couronne dessus. Ce qui implique qu'elle n'est pas une monarchie, mais plutôt, si nous interprétons tout le symbole, mais plutôt une jeune république chrétienne, puisque l'agneau représente le Christ, ok? Une jeune république chrétienne qui est guidée par deux principes. Mes amis, voyez-vous, l'unique puissance qui répond à toutes ces caractéristiques est le pays de David Sims et d'Alan Stone. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Et voyez-vous, d'après la Bible, ce pays changera afin d'être ce qui est décrit en Apocalypse, chapitre 13, versets 11 et 12. Ici, en Apocalypse, chapitre 13, versets 11 et 12, il nous est dit, puis je vis une autre bête montée de la terre qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Verset 12, elle exerçait toute la puissance de qui? De la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient qui? La première bête dont la plaie mortelle avait été quoi? Guérie. Ok. Ce changement de manière de parler et d'exercer le pouvoir annonce qu'il y aura des lois contraires à la liberté religieuse, telles que cela était le cas sous la domination du dragon, c'est-à-dire de la Rome païenne, mais également de la bête, c'est-à-dire la Rome papale. Et de plus, mes amis, au verset 13 et 14 du même chapitre d'Apocalypse 13, lisons ensemble Apocalypse 13, verset 13 et 14, il nous est dit, et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre quoi? Du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Voyez-vous, les États-Unis d'Amérique, cette nation, eh bien, elle conduira son peuple à faire une image à la bête. En d'autres termes, elle mettra à exécution des décisions sous l'influence de l'Église, tout comme cela était le cas pour la bête, mes amis. Et quel genre de décision? Lisons du verset 15 au verset 17. Et il lui fut donné d'animer quoi? L'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voyez-vous, tout comme pour Rome, eh bien, les autorités religieuses des États-Unis d'Amérique emploieront le pouvoir civil pour contrôler les consciences des gens en imposant une loi qui rendra hommage à la bête. Et ceux qui adoreront la bête et son image en obéissant à cette loi recevront la marque de la bête. Ceux qui enseignent que la bête est l'Union européenne enseignent également que la marque de la bête est l'homosexualité. En conséquence de l'acceptation de l'évolution, de l'humanisme et de l'athéisme. Mais voyez-vous, mes amis, de nouveau, je dois dire qu'une telle conclusion est une erreur. En effet, rappelez-vous que le premier ange requiert la véritable adoration. Tandis que le troisième ange, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous présente la véritable adoration en contraste avec la fausse. Et d'après le troisième ange, la véritable adoration est basée sur quoi? Quels sont les deux éléments sous lesquels la véritable adoration est basée d'après le troisième ange? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et la fausse adoration est basée sur quoi, mes amis? Sur la bête. Elle est basée sur la bête et sur son image. Mes amis, je vous pose une question à présent. Qui est Jésus? Alors, il y aura beaucoup de réponses. Mais qui est Jésus par rapport à Dieu? Alors là, il y a aussi beaucoup de réponses. Il est le Fils de Dieu. Mais si on veut décrire Jésus d'une manière prophétique par rapport à Dieu, qu'est-ce que nous dirons? Ok. Quel est l'enseignement que l'apôtre Paul a beaucoup donné par rapport à Jésus? Au moins à 3-4 reprises, l'apôtre Paul l'a enseigné. Ce que l'apôtre Paul a enseigné par rapport à Dieu, par rapport à Christ, sur Christ concernant par rapport à Jésus. Il a dit que Jésus est l'image du Dieu vivant. Ok? Vous avez Dieu et vous avez Jésus. Jésus est l'image de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, vous avez les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La véritable adoration est basée sur ce que produisent qui? Sur ce que produisent le Père et le Fils, Dieu et son image. Mais la fausse adoration, elle est basée sur quoi? sur la bête et son image. Est-ce que vous voyez la contrefaçon, mes amis? Ah. Ah. Et mes amis, puisque l'image de la bête est une contrefaçon de la foi de Jésus, c'est ce qu'il faut comprendre, lequel est l'image de Dieu, alors la marque de la bête doit être une contrefaçon de quelque chose ayant trait au commandement de Dieu. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi on ne peut pas être d'accord avec le fait que la bête c'est l'homosexualité. Et de manière intéressante, les personnes qui sont mentionnées en Apocalypse 14, verset 12, sont ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 7, verset 2 à 7, et en Apocalypse 14, verset 1. Et puisque le troisième ange commence à donner son message, lorsque Jésus arrive, entre et se présente devant l'arche de l'Alliance dans le ciel, arche dans laquelle il y a entre autres quoi? Les 10 commandements, c'est-à-dire le décalogue. Eh bien, il est clair que les commandements de Dieu qui sont mentionnés par le troisième ange sont le décalogue. Les 10 commandements. Mais je vous pose une question. Quelle partie des 10 commandements est concernée par le sceau de Dieu? Le quatrième, le sabbat. Vérifions cela. Et pour vérifier cela, mes amis, nous avons besoin de savoir ce qu'est un sceau, puisqu'il est question du sceau de Dieu. D'accord? Lorsque nous considérons dans le Larousse 2017 en ligne, il nous est dit que le sceau est un cachet ou matrice sur laquelle sont gravées en creux la figure, les armes ou la marque symbolique d'un État, d'un souverain, d'une communauté ou d'un particulier et dont on applique l'empreinte sur des actes ou des objets pour les authentifier, les clore d'une manière inviolable ou pour marquer la propriété. C'est clair. Et mes amis, voyez-vous, de plus, un sceau officiel indique toujours combien de choses? Il y a au minimum 3 choses qu'un sceau officiel doit indiquer. Il doit indiquer, premièrement, il doit avoir ces 3 caractéristiques-là. Il doit avoir le nom du législateur. Donc, si notre président Emmanuel Macron a un sceau, il y aura marqué Emmanuel Macron dessus, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y aura son rond, président de la République. Et troisièmement, son domaine, président de la République française. Le nom, son statut, son rang et son domaine. Le nom, donc, en d'autres termes, le nom du législateur, son rang et son domaine. Alors, arrivé ici, nous devons nous poser une question. Lequel des 10 commandements possède ces 3 caractéristiques? Le 4e commandement. En effet, lorsque nous nous rendons dans Exode chapitre 20, verset 9 à 11, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de qui? De l'Éternel ton Dieu. Et qui est l'Éternel ton Dieu? Le législateur. On continue. Et tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. C'est quoi? Il a fait, il a créé. Et quand vous créez, vous êtes qui, mes amis? Vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur. Et cela est son rang. Le créateur, il est le créateur, mes amis. Et il a créé, il a fait en combien de jours? En 6 jours. Et il a fait quoi en 6 jours? Les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Donc voilà son domaine. Voilà ce sur quoi il règne, mes amis. Les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Est-ce que vous voyez le sceau ici? Oui, mes amis, le sceau est présent. Eh bien, ce sceau est inscrit dans le sabbat. Ce sceau est inscrit dans le sabbat, mes amis. Il contient ce sceau. Le sabbat contient ce sceau. Et c'est pour, voilà pourquoi nous lisons en Exode. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 31, verset 13. Exode, chapitre 31, verset 13. Exode, chapitre 31, verset 13. Et là, il nous est dit quoi? Il nous est dit, Exode 31, verset 13, il nous est dit, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous quoi ? Qui vous sanctifie, mes amis. » Voilà, mes amis. Là, le sceau de la sanctification, mes amis. Eh bien, ceux qui recevront ce sceau, ce seront des personnes qui observeront le sabbat. Car le Seigneur l'a donné comme un signe, de manière à montrer que oui, c'est moi qui vous sanctifie. Et voyez-vous, c'est également vers ce signe, ou ce sceau de Dieu, que le message du premier ange dirige notre attention. En effet, lorsque nous considérons le message du premier ange, en Apocalypse 14, versets 6 et 7, il est dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez qui ? Dieu. » Qui est Dieu ? La Trinité ? Bouddha ? Nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père. Et le Père, qui est le Père ? Jéhovah, mes amis. « Craignez Dieu, le législateur, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et adorer celui qui a, quoi? Il a fait. C'est quoi fait? La création. Donc, son rang est créateur. Il a créé quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà son domaine. Nous avons le législateur, nous avons, eh bien, le rang, son rang et son domaine. Est-ce que vous comprenez, à présent, pourquoi nous avons dit, au début de ce message, que lorsque Dieu organise un committing en Apocalypse 14, versets 6 à 12. Tous les messagers sont en accord, mes amis. Tous les messagers sont en accord. Le premier ange prépare la voie pour le message du troisième ange, mes amis. De manière à ce que lorsque le message du troisième ange arrive, les gens puissent dire, voilà ce que le premier ange annonçait. De sorte que tous ceux qui ont accepté le message du premier ange, ils ont déjà la préparation pour accepter le troisième ange. Encore faut-il qu'ils acceptent le second aussi. Donc, il est donc évident que le sceau ou le signe de Dieu est exprimé dans le quatrième commandement. Par conséquent, le sabbat institué par la bête, qui est le sabbat du premier jour, le sabbat du dimanche que l'Église catholique romaine a institué, eh bien, est l'opposé du sceau de Dieu, mes amis. Et ainsi, ceux qui continueront à violer les 10 commandements, eh bien, lesquels sont l'expression même de la volonté de Dieu, et tout particulièrement le 4e commandement, eh bien, tous ceux qui continueront ainsi, eh bien, ils paieront allégeance à la bête, à la papauté, et ils recevront sa marque. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais je passerai directement à la foi de Jésus. Et je ne vais même pas, en fait, rentrer dans le sujet parce que nous avons présenté cela en 4 parties. Nous avons des ouvrages qui parlent de la foi de Jésus. Combien d'entre vous ont entendu parler de la foi de Jésus, ont été enseignés dans la foi de Jésus, mes amis? C'est quelque chose, si vous considérez les présentations que nous avons faites, c'est quelque chose qui a été mis de côté, mes amis. On en a parlé un peu du contenu, mais on n'a jamais présenté la foi de Jésus avec autant d'importance que les commandements de Dieu, mes amis. Mais je vous pose une question, qu'est-ce que Jésus a dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous mettez Jésus de côté avec sa foi, est-ce que vous pouvez garder les commandements de Dieu, mes amis? Non! Et remarquez quelque chose. C'est l'image de la bête qui conduit les gens à adorer la bête. Et ça, c'est une contrefaçon de ce qui se passe dans Apocalypse 14, verset 12. Ça veut dire que dans Apocalypse 14, verset 12, les gens gardent la foi de Jésus de manière à pouvoir aussi garder les commandements de Dieu, mes amis. Si vous ne gardez pas la foi de Jésus, mes amis, vous ne pouvez pas garder les commandements de Dieu. Non. Non, mes amis. Nous devons avoir une compréhension de tout le message. Les commandements de Dieu sont une partie du message et la foi de Jésus est une autre partie du message du troisième ange. Si nous mettons de côté une partie du message, mes amis, est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous pouvez faire un marathon avec une seule jambe, mes amis?
Non.
Non! Essayez pour voir. C'est les dents en premier que vous allez vous planter dans le sol. Et nous avons terminé ici. Est-ce que le message du troisième ange vous paraît clair? Est-ce que les fondamentaux de ce message sont clairs pour vous, mes amis? Ce que nous avons vu en ce matin, mes amis, ce sont des fondamentaux, ce sont des bases. C'est le béaba, comme on l'appelle. Et voyez-vous, depuis quelque temps, je suis véritablement attristé de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette base. Et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette base et qui changent de base et qui enseignent un autre message. Et je suis aussi attristé de voir qu'il y en a qui ne connaissent pas cette base si bien qu'ils vont écouter et qu'ils vont dire amen à ceux qui changent cette base. Mais il y a quelque chose qui est triste à considérer, mes amis, c'est que est-ce que vous vous rendez compte que c'est le dernier message de miséricorde qui est là? Je vous pose une question. Si vous voyez un prêtre qui arrive ou un évêque et qui se met à vous dire, vous adventistes du septième jour, puisque tout le monde ici sont des adventistes du septième jour, historique, non théologiquement modifié, je l'espère pour vous. Eh bien, si ils viennent à vous, un prêtre ou un catholique ou quelconque autorité religieuse catholique, et qu'ils se mettent à vous dire, oh non, l'Église catholique n'est pas la bête, la papauté n'est pas la bête, et puis votre message là, c'est pas ça qu'il faut prêcher, c'est autre chose. Comment vous allez réagir? Mais mes amis, normalement vous êtes censé dire oh mais en fait déjà avant même qu'il commence à parler vous êtes déjà en garde. Vous comprenez? Mais lorsque vous entendez son message, vous êtes censé en plus de ses vêtements, les vêtements vont vous aider à réfléchir un peu. Mais est-ce que c'est une bonne manière d'agir? Est-ce que c'est une bonne manière de s'arrêter aux vêtements de la personne?
Non.
Et pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas habillés en prêtre, qui n'ont pas une tiare sous la tête. C'est des gens qui sont des pasteurs, des adventistes, même des adventistes du septième jour, et qui se disent être des adventistes du septième jour historiques, non théologiquement modifiés. Ils ont pas de vêtements de prêtre, ils ont pas de tiare, et ils arrivent. Donc, ils sont pas habillés en prêtre. Donc, les adventistes, ils disent, ah, c'est pas un prêtre, donc on peut l'accueillir pour prêcher chez nous. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ils enseignent exactement les mêmes choses que les prêtres, mes amis. À savoir, laissez le pape tranquille, prêchez l'amour. Mes amis, est-ce que c'est une bonne chose de s'arrêter à l'apparence?
Non.
Non, mes amis. Dieu veut que nous soyons un peuple intelligent. Et qu'est-ce qu'il est marqué dans Ésaïe 8, verset 20? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux. Et par conséquent, cela nous amène à ce qui est marqué dans le français, c'est qu'il n'y a point d'aurore pour le peuple, en fait. Voilà comment il nous faut marcher, mes amis. À la loi et au témoignage. Parce que lorsque Satan attaque, il va pas envoyer des gens avec des tiares et des habits de prêtre. Et voilà comment aujourd'hui, mes amis, des gens sont amenés à dire amen à tout ce dont nous venons de démonter. Vous vous rendez compte? Des gens même qui sont même, on arrive à dire aussi que le verset 12 d'Apocalypse 14 n'est pas dans le message du troisième ange.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.